Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Littérature sans frontières.
Une terre, un auteur.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Destination, le Congo-Brazzaville.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à notre deuxième prix littéraire, Voix d'Afrique, au pluriel. Initié par RFI et les éditions Jean-Claude Lattès, avec le partenariat de la Cité internationale des arts. Et après une première édition en 2020 très réussie, un nouvel appel aux jeunes plumes du continent africain a permis de recevoir plus de 350 manuscrits qui, après lecture, a fait émerger 5 finalistes départagés par un jury sous la présidence de l'écrivain Abdourahmane Ouaberi, composé de journalistes, d'éditrices, blogueurs, libraires, auteurs, programmatrices, venant de France, de Côte d'Ivoire ou de Mauritanie, entre autres. Et c'est ainsi qu'au terme de délibération a été choisi un premier roman intitulé « Cave 72 » et qui vient tout juste de paraître aux éditions Lattès et dont l'auteur, le lauréat, est aujourd'hui notre invité en studio, ici et maintenant. Bonjour Fana Tiki.
Bonjour Catherine.
Bravo pour ce prix Voix d'Afrique que vous remportez pour l'édition 2021. Et je suis très heureuse de vous accueillir à RFI puisque vous vivez à Brazzaville, en République du Congo, mais vous êtes en France depuis le début de la semaine. Alors évidemment, les auditeurs, les auditrices de RFI et moi-même avons beaucoup de questions à vous poser. Nous voulons tout savoir de vous. Et pour commencer, on peut dire donc que vous êtes né en 1992 à Pointe-Noire. Mais ensuite, comment est né votre goût pour la littérature et votre envie de devenir écrivain, Fana Tiki ?
Alors, ça a été progressif. Donc, la première étape, ou plutôt la genèse, donc, a été de découvrir le slam. Voilà. Donc, à partir du slam, j'ai fini par aimer les mots, donc apprendre à les retourner, que ce soit les mots, les phrases. Voilà, apprendre à les manipuler, apprendre à s'en servir comme bon me semble, a été un exercice très plaisant et finalement très vite une addiction. Et ensuite, il y a eu la découverte de Flaubert. Flaubert qui d'ailleurs m'a offert ma toute première véritable lecture grâce aux Trois Cantes, son œuvre posthume. Donc en lisant le tout premier cante intitulé « Un cœur simple », j'étais vraiment émerveillé par son style, toute la poésie qu'il y avait là-dedans. Et du coup, j'avais décidé comme ça de lire une deuxième œuvre de lui, qui a été Madame Bovary. Et là, il m'a tué par son sens du détail, par la façon dont il construisait et parfaitement les personnages. Voilà, donc toute cette cohérence qu'il y avait dans ses écrits, dans sa façon de décrire l'environnement. Et j'avais vraiment été séduit par ça. Et donc, c'est lui qui m'a donné vraiment envie de lire, de découvrir d'autres auteurs. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la nouvelle. J'ai écrit pas mal de nouvelles. J'en ai 10 à mon actif, mais jamais publiées. Voilà. Et finalement, j'ai fini par me dire que je suis prêt pour un roman.
Je m'arrête un instant avec vous parce que justement, je me demandais, Fana Tiki, est-ce que c'était un rêve de devenir écrivain ou une vocation naturelle ? Dans la mesure où vous écrivez dans votre roman à propos d'un personnage, je vous cite « Nous sommes un pays de 4 millions d'habitants dont la moitié sont écrivains. Encore un désespéré qui pense devenir le prochain Sony ou Alain ou Lopez, sous-entendu Sonny Laboutancy, Alain Mabankou et Henri Lopez, vos prestigieux aînés congolais. Est-ce que donc vous faites partie des 2 millions d'écrivains congolais qui rêvent d'être publiés ?
Bon, je ne rêve plus puisque je le suis maintenant.
C'est vrai ? Alors est-ce que vous faisiez partie ?
Bon, oui, à un moment on a bien rêvé. On a bien rêvé, on faisait partie de ces 2 millions-là. Qui rêvait. Mais en même temps, ce rêve se justifie parce qu'il y a tellement de choses. En fait, en vivant au Congo, Brazzaville, bien sûr, on découvre tellement de choses qu'après, on a envie de les raconter. de les partager. Tout ce qui se passe ici, mais on a l'impression que c'est romanesque, quoi. Voilà. Parfois, on n'a pas besoin de faire preuve de trop d'imagination pour écrire quelque chose d'intéressant. Certains d'entre nous se disent, ben, on ne va pas le garder pour nous, on va le garder. Plutôt, on va tenter de le partager, et d'autant plus que le Congolais est très, très altruiste. Il aime donner, donner et donner, voilà, sans se lasser. Et je crois que c'est pour toutes ces raisons-là qu'il y a 2 millions de jeunes ou d'habitants qui rêvent de devenir écrivains.
Donc, si je résume, Fanatiki, la découverte du slam, la lecture d'auteurs français, par exemple, comme Flaubert, mais aussi l'admiration pour Sonny Laboutancy, son théâtre, la lecture de Mabankou, certainement, puisque vous êtes né à Pointe-Noire.
Et aussi Dongala.
Et Dongala, j'y arrive, dont vous dites à juste titre qu'il mérite le Goncourt, voire le prix Nobel de littérature.
Exact.
On est bien d'accord. Vous écrivez des nouvelles, vous aviez envie d'écrire un roman, mais alors comment ça s'est passé ensuite? Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce concours d'écriture Voix d'Afrique et pourquoi avez-vous décidé de participer à ce prix?
J'en ai entendu parler grâce à RFI, parce que je passe la plupart de mes matinées à flémarder et donc en écoutant RFI. Voilà, un jour, j'étais là dans mon lit et il y a l'annonce qui passe sur RFI. Donc la première année, j'étais déjà en train d'écrire le roman. J'avais déjà amorcé la phase de l'écriture. Et je m'étais dit, ben, je ne suis pas prêt. Et bizarrement, à cette époque, les concours ne me parlaient pas trop, ou peut-être plus. J'avais envoyé mes nouvelles à pas mal de concours et j'avais eu des mauvais retours. Voilà, et du coup, bon, les concours, ça ne me disait plus grand-chose. Du coup, à l'annonce du premier lauréat, j'étais content pour Yaya et je me disais, au moins, on a un événement, on a un concours qui permet d'émerger, de faire émerger les nouveaux talents. Voilà. Et du coup, la deuxième année, avec la Covid, on n'était pas certain qu'il y aurait une deuxième édition du prix Voix d'Afrique. Et là, j'étais déjà, on va dire, à 95% de l'écriture du roman. Et donc, quand je tombe encore, toujours en flémardant, dans mon lit, quand je tombe encore sur l'annonce de la deuxième édition, je me dis, je vais bosser, finir ce roman, et puis envoyer. De toutes les manières, je n'ai rien à perdre.
Donc, d'une certaine façon, ça vous a motivé pour finir l'écriture de ce roman.
Exact.
Et vous vous êtes dit, je n'ai pas encore 30 ans, je n'ai pas encore été publié, je suis en train de finir un roman. Voilà. Je vais tenter ma chance. Voilà. Et vous avez bien fait, puisque, comme je le disais, sélectionné parmi les finalistes, vous avez fini par être le lauréat 2021. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle, Fanatiki ?
Comme un enfant à qui on a offert une sucette pour la première fois de sa vie. Donc j'étais très content. Et donc j'étais toujours en train de flémarder chez moi. Lorsque je reçois un message de Anne-Sophie.
Stéphanini, l'éditrice Jean-Claude Lattès.
Exact. Elle me dit qu'elle a deux bonnes nouvelles à m'annoncer. Je lui dis, ok. La première nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est que j'étais finaliste. Je lui dis, ok. Et elle dit, la deuxième bonne nouvelle, vous êtes le lauréat. Alors là, j'ai hurlé vraiment de joie. J'arrivais plus à me retenir. J'avais envie de dire à tout le monde « Ah, je suis lauréat !» Mais elle me dit « Non, ça va se faire en septembre. »
Il y avait un embargo à respecter.
Exact. Mais bon, après, je sais garder les secrets. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais voilà.
Vous avez beaucoup moins flémardé, du coup.
Oui, ça m'a donné beaucoup de travail. Mais j'ai continué de regarder RFI, plutôt de suivre RFI. Voilà.
Est-ce que c'est la première fois que vous venez en France, Fanatiki ?
Oui, c'est la première fois.
Votre première impression ?
J'aime l'architecture qu'il y a ici, c'est impressionnant. Ça me change un peu de l'architecture rudimentaire que je trouve chez moi. C'est pas que on n'a pas de belles vues chez nous, non, mais à force de s'habituer à ce qu'on voit, ça, il n'y a plus de charme. Mais par contre, quand j'arrive ici, tout me semble nouveau et bien et neuf. Et aussi, on me fait comprendre que tous les Parisiens sont pressés, ils n'ont jamais le temps. Et je me dis, je suis certainement le seul qui, qui ne soient pas pressés dans les rues de Paris.
Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, Fanatiki, on va entrer dans votre premier roman, okay. Cave 72. En attendant, une petite pause musicale, sachant qu'il y a plusieurs références dans votre livre. Alors je les cite, Extra Musica, DJ Kratos ou encore Capitaine Alexandre. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute ensemble maintenant ?
Capitaine Alexandre.
Pourquoi ? Parce que c'est un slammer lui aussi ?
Oui, parce que c'est un slammer, parce que c'est un ami et parce que j'aime surtout son écriture, sa poésie.
Qui tourne en boucle dans mon cœur depuis plus de 20 ans.
Un artiste camerounais.
Oui.
Alors on va l'écouter.
Il y a quelque chose chez la femme et l'homme. Une vacuité sidérale. Une part manquante. Une absence abyssale. Une vacance à être qui ne peut être comblée que par la poésie. La poésie, pas seulement celle des livres, des mots, mais aussi et peut-être surtout celle essentielle des matins de givre et des gestes tendres. La poésie, oui, la poésie, ou le poème qui se dresse en vertige contre la vulgarité, contre le cynisme, contre la violence du monde. Le poème qui se dresse en vertige pour dire oui, accueillir dans la nuit toute la beauté. Il y a quelque chose chez la femme et l'homme, une vacuité sidérale. Une part manquante, une absence abyssale, une vacance à être qui ne peut être comblée que par la poésie. Poésie de la beauté intraitable, poésie des amours inévitables, poésie qui dissipe les ténèbres. Là, la poésie, le poème qui se dresse en vertige pour nous rappeler à nous-mêmes, pour nous rappeler à l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. À l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. J'ai appris à écrire dans le noir. De là vient peut-être ma quête de lumière. J'ai appris à écrire dans le noir. De là vient peut-être ma quête de lumière. De là vient sûrement ma quête de lumière.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission exceptionnelle en compagnie du lauréat du prix littéraire Voix d'Afrique, Afrique toujours au pluriel, qui pour cette deuxième édition est le jeune écrivain Fanatiki, récompensé pour son premier roman intitulé Cave 72 aux éditions Jean-Claude Lattès. Une fiction qui se déroule à Brazzaville, où vous vivez, et qui est à la croisée du roman policier avec un meurtre à la clé, du roman politique, les coulisses paroluisantes du pouvoir, et du roman satirique avec une vis comica tout à fait savoureuse dans les dialogues et les situations parfois burlesques. Plantons le décor si vous voulez bien. D'abord, un bar, une cave, le terme qui au Congo désigne un débit de boisson, d'où votre titre, Cave 72, où se réunissent quatre jeunes, Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane, qui ont cassé le stylo, expression qui vient du Lingala ou du Kituba, qui signifie mettre un terme à ses études. Bref, quatre garçons un peu oisifs qui commentent la vie qui passe avec nonchalance jusqu'à ce qu'ils soient impliqués dans un complot politique. Comment est née cette histoire, Fanatiki ?
Alors, cette histoire est née d'abord en observant autour de moi. Et une fois au quartier PK, voilà, nous buvions avec des amis, donc ceux qui deviendront des personnages de ce roman. Donc il y avait toute une ambiance autour de nous et on commentait tous cette ambiance-là et on considérait tous ceux qu'il y avait autour de nous comme des personnages. Ensuite, il y a un monsieur qui décide de venir vers moi comme ça, sans pour autant qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Il s'approche de moi, il commence à me parler, à me dire des choses. Et là, il y a des amis qui me disent « Mais voilà l'évidence, c'est ton personnage qui vient te voir. »
Mais voilà. Qu'est-ce qui vous a dit ce monsieur qui s'est approché de vous pour vous parler ?
Alors, il me disait tout et n'importe quoi. Il me disait qu'il avait beaucoup d'argent à l'époque, voilà, qu'à un moment donné, il avait connu une aventure avec une femme, avec bon, une femme qui apparemment lui aurait vidé les poches et tout ça. Et puis, en tout cas, c'était... Il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Et moi, j'étais là en train d'écouter. Il me disait qu'il était intelligent à l'école. Et j'étais là et au final, il me dit « Achète-moi la bière ». J'ai dit « Bon, ah, d'accord, ok. » T'aurais dû commencer par là et je me serais débarrassé de toi très tôt. Et donc, il y avait toutes ces choses-là. Il y en avait tout plein qui étaient ridicules pour nous. Mais qui ont fini par prendre un sens quand même. Et je me suis servi de ça pour construire ce roman. C'est vrai que ce personnage ne se retrouve pas là dans le roman, mais il y a au moins son attitude, son caractère et un peu de sa psychologie qui se retrouve éclatée dans pas mal de personnages de ce roman.
Avant d'en arriver à l'aspect plus dramatique et sérieux du livre, je voudrais qu'on reste avec vous, Fanatiki, sur le côté comique, comme je le disais, avec ces quatre protagonistes qui sont un peu les frères Dalton, hein, du Far West. Ils sont aussi maladroits qu'attachants, avec aussi la patronne de Cave 72, Maman Nationale, qui pourrait être Ma Dalton. Hein. Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux, une partie de la jeunesse congolaise qui est désenchantée, qui ne croit plus aux études, qui ne voit pas l'avenir de leur pays leur tendre les bras?
Une partie de la jeunesse qui sait très bien ce qu'elle vaut, et d'où sa réticence à se laisser aller à croire aux promesses du gouvernement ou de l'État. Voilà, donc c'est surtout pour cette jeunesse-là que j'ai écrit ce roman. Je voulais en même temps que ce roman incarne un espoir pour ces jeunes qui se disent l'école ou encore les longues études ne sont pas la voie unique qui conduit vers la réussite et qu'on peut passer par moult chemins pour atteindre la réussite. Et il y a aussi ce questionnement-là de finalement, qu'est-ce que c'est que la réussite? Est-ce que c'est se retrouver dans un bureau? Est-ce que c'est travailler dans le pétrole? Est-ce que c'est faire un commerce? Est-ce que c'est faire ce qu'on aime? Parce que il y a cette interrogation également. Et c'est vrai que je n'apporte pas de réponse. Voilà, mais au moins, je fais comprendre à cette jeunesse que la réussite a de multiples voies, tout simplement.
Mais en même temps, vous en faites partie de cette jeunesse, Fanatiki. Quand on n'a pas 30 ans, on est jeune encore.
Oui, oui, c'est vrai qu'on est jeune. Et effectivement, c'est peut-être en m'appuyant sur mon expérience, parce que c'est vrai que j'ai travaillé à un moment dans une pharmacie. Bon, le salaire n'était pas très plaisant, d'autant plus que j'étais témoin de tout l'argent, de toute la recette énorme qu'on faisait par jour. Et puis quand j'ai quitté la pharmacie, j'ai décidé de vivre totalement du slam. D'abord, j'ai commencé à vivre du slam et ensuite du slam et du théâtre. Et puisque jamais 203 et maintenant slam, théâtre, roman. Voilà.
Alors ces garçons donc qui sont au bar, qui devisent, qui citent Nietzsche, Barthes, Céline, Sonny Laboutanci et d'autres écrivains congolais sont donc considérés comme des communistes par le gouvernement, dont vous vous moquez d'ailleurs, Fanatiki, puisque le dirigeant du pays, vous le surnommez le guide providentiel de la nation. Mm-hmm. C'est de l'humour bienveillant ou c'est caustique?
Ce n'est ni bienveillant ni caustique. On va trouver le juste milieu. Mais en même temps, ce n'est pas nouveau, hein, cette dénomination-là. Ce n'est pas nouveau. Il y a Sony qui avait déjà un personnage qu'il avait appelé le guide providentiel. Et je crois qu'il y a dans un roman de Blaise Ndala, on a également le guide providentiel. Voilà, donc ce n'est pas nouveau.
C'est une façon générique de parler des gouvernants.
Exact, exact. Et surtout de faire de sorte qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas que d'une personne précise ou spécifique, mais qu'il s'agit surtout d'une symbolique, en fait. Voilà, c'est surtout un symbole. C'est surtout un symbole, ce guide national. Donc, ce n'est pas
une personne en particulier.
Voilà. Et c'est pourquoi c'est un personnage qui a de multiples caractères, que j'épuisant un peu partout dans pas mal de
personnes réelles,
de dictateurs. voilà, de vrais dictateurs. Voilà, que j'ai puisé un peu de leur caractère pour en faire un personnage unique. Mais tout en m'appuyant quand même sur une base, et cette base qui est le réel, parce que je m'intéresse beaucoup aux détails, puisque je sais que le détail appelle le sens et le sens appelle le beau. Et du coup, il me faut vraiment avoir une base réelle pour pouvoir donner un sens à ma fiction.
Voilà. Alors, toujours est-il que ce guide providentiel de la nation, on le voit dans votre roman, œuvrer en coulisses pour garder son poste, quitte à trahir ses proches, et trouver donc comme bouc émissaire ces quatre jeunes garçons qui n'ont rien demandé, même si en fait ça ne se passe pas du tout comme prévu, étant donné que tout le monde fait un peu n'importe quoi, que le mort n'est pas le bon mort, en tout cas que celui qui est assassiné n'est pas celui qui aurait dû être assassiné, les hommes de main accumulent les bévues. Là encore, vous vous servez de l'absurde, Fanatiki, pour dénoncer, pour fustiger l'incompétence, entre autres.
Oui, et l'absurde est ce qui nous entoure, et on rencontre l'absurde partout. Et dans ce livre, j'ai voulu également dénoncer cette absurdité-là qu'on retrouve un peu partout. Et d'où cette absurdité dans ces actes politiques, l'absurdité du peuple qui se rébelle parce qu'on aurait fermé un débit de boisson et qu'ils ont tendance à fréquenter tout le temps. Et en même temps aussi, ces quatre protagonistes, donc les jeunes, par rapport aux actes qu'ils posent, paraissent absurde pour les autres. Donc, comme quoi l'absurdité des uns n'est pas toujours l'absurdité des autres. Donc, on rencontre vraiment l'absurdité partout. Et moi, j'avais envie de ressortir cela. Et pas vraiment fustiger, mais juste, parce qu'il n'y a pas de véritable agression dans ce roman. Il n'y a pas de véritable agression dans le sens où, c'est vrai que je pointe du doigt, mais pas pour m'en prendre à. C'est juste pour montrer. Voilà.
Alors, cela dit, il y a un de vos personnages qui dit, et là on arrive dans l'aspect plus grave, plus sérieux de votre écriture, Fanatiki, le pays est en état d'alerte, et un peu plus loin, l'attitude des Congolais, leur lâcheté face à l'oppression, leur silence face à l'impunité de ceux qui détournent les fonds, leur crainte d'une guerre civile, forment le fondement de ma remarque. Là, c'est beaucoup plus dramatique ce que vous écrivez.
Oui, c'est dramatique et c'est vrai. C'est vrai, il suffit de se retrouver au Congo-Brazzaville pour réaliser cela. Il y a ce traumatisme qui se communique de père en fils ou de mère en fille, ou peut-être même de père en fille, voilà, et de mère en fils. Et même ceux qui n'ont pas connu la guerre de 97 ni celle de 98 ressentent quand même ce traumatisme-là, parce qu'il est là, il est présent, il est pesant. Mais malgré cela, c'est un peuple qui continue de trouver la joie de vivre. Et c'est ce qu'il y a de formidable, en fait, au Congo. C'est qu'on sait que nous sommes, j'ai envie de dire, martyrisés, mais pas tellement. On sait que nous sommes victimes d'une paupérisation. Voilà, il y a certains favorisés qui se lancent et qui ne se fatiguent pas de tous les détournements de fonds, qui ne rendent pas service au peuple. Mais pourtant, c'est un peuple qui réussit à trouver la joie de vivre, c'est un peuple qui réussit à trouver son chemin, à se bâtir, à se construire, et qui est là, qui attend, qui observe. Et surtout, qui, dans sa logique, se dit: il y a eu la guerre, on ne veut plus que ça recommence un jour, et donc on observe tout simplement, de toutes les manières, tôt ou tard, tout finit par prendre fin. Donc on attend tout simplement cette fin-là, la fin de toute cette misère, de tout ce que nous traversons de compliqué, de difficile.
Votre roman, Fanatiki, est émaillé de plusieurs langues du pays, Lingala, Kituba, il est aussi question du Lari. Tandis que le français est présenté comme une langue venue par bateau avec son lot de crimes, d'aucuns ne le considéraient, à l'instar du chemin de fer et du christianisme, que comme un stigmate de la colonisation, la trace d'une marée de sang déversée au nom de la civilisation. Fermez les guillemets. Est-ce que c'est encore le cas, d'après vous, Fanatiki ?
Aujourd'hui, la langue française a pris une autre tournure. Et ça, ça concerne, ce qui vient d'être dit ne concerne qu'une poignée de personnes. Donc il y a des personnes très engagées qui pensent qu'elles doivent lutter contre la langue française, contre l'héritage de la colonisation, donc toute forme d'héritage, mais pourtant ce sont les mêmes personnes qui épousent des femmes blanches et qui vivent en Europe. Et du coup, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui s'amusent bien à déclarer leur amour à cette langue. Des personnes comme moi, par exemple, je ne me cache pas, j'ai toujours dit aux autres que j'aime bien cette langue parce que j'ai été nourri, et dans tous les sens de ce terme, j'ai été nourri par cette langue. Donc quand j'ai grandi, mon père et ma mère ne me parlaient qu'en français. À aucun moment, mon père ne m'a parlé en kouyou ou en boshi, à aucun moment. Ma mère ne m'a jamais parlé en dondo, jamais. Et, le kituba et le lingala, je les ai appris dans la rue. Et ensuite, en apprenant le kituba et le lingala, ayant constaté que j'avais quand même des rudiments, et ma mère, à ce moment, s'est mise à me parler aussi en kituba et en lingala. Mais sinon, que j'ai vraiment appris ces deux langues-là dans la rue. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi mes parents ne voulaient pas me parler dans ces langues. Parce que, on a tendance à ne pas le remarquer, mais la langue française réussit quelque chose de très fort, c'est-à-dire à unifier un peuple. J'ai des amis très proches, ceux qui constituent mon cercle immédiat, donc les têtes brûlées. Nous sommes de plusieurs ethnies, d'accord ? Mais grâce aux Français, nous réussissons à communiquer. Grâce aux Français, on oublie qu'il y en a qui viennent du nord, du sud, du centre, grâce aux Français. Et ça, c'est valable pour beaucoup de gens. Il y a des inconnus qu'on croise dans la rue, on ne va pas lui parler tout de suite. Voilà, en kituba, surtout dans un certain contexte, on ne va pas lui parler tout de suite en lingala ou en kituba, mais on commence par lui dire bonjour. Donc il y a ce lien que réussit à créer la langue. Et ça, malheureusement, on ne remarque pas cela. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que mes parents se sont refusés à vouloir m'inculquer un peu cette envie de connaître mes racines, parce que mes parents voulaient que je sois ouvert, que je ne puisse pas être victime d'un repli identitaire, mais plutôt que je me considère comme étant un Congolais, tout simplement, un citoyen congolais, et pourquoi pas un citoyen de l'universel, tout simplement. Voilà.
Merci encore, Fanatiki, d'être venu au micro de Littérature sans frontières sur RFI, nous parler de ce très beau premier roman qui, je le rappelle, est donc le lauréat du prix Voix d'Afrique 2021, initié par RFI, les éditions Jean-Claude Lattès et en partenariat avec la Cité internationale des arts. Merci encore.
Merci à vous, Catherine.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.